Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h04. On y revient au mastic dans le super Moscato Show. Vous le savez, on est là tous les jours de 15h à 18h. Vous le savez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous en remercie sur RMC. On est avec le couple de l'année. On va commencer par la petite Bartoli, Marion Bartoli. Comment elle va?
Elle va super bien, dis donc. Je suis reposée. Je suis vraiment
fraîche.
Au top. Ouais, au top du top.
C'est vrai que pas comme si tu travaillais, mais enfin, bon, t'étais fatigué, c'est sûrement autre chose. Mais fatigue de l'amour, comme on dit, en parlant d'amour, je vous annonce un couple. Les jeunes mariés, bientôt, il est là, avec nous, Denis mais, Charvet.
C'est vrai, on a parlé hier.
C'est vrai, t'en as parlé. Elle était bouillante quand même. Hein.
Ouais. Hein, je ferais pas un grand mariage, je t'avertis.
Ah, quand même, Adrien.
Ah, quand même, tu le fais, Denis, un peu de romantisme.
Oui, mais romantisme, tu peux le faire à 4, 5, 6, c'est pareil. Je veux dire, t'es pas obligé de voir à 50
alors,
personnes.
Alors, romantisme à 4, 5, 6, ça apporte un autre nom.
Je suis pas gentil.
On ira chez Jacques Monclaro.
Très bien, très bien.
Le romantisme, t'as les nuls, on va rien avoir là-bas.
T'as vraiment l'esprit mal
tourné. Je m'appelle Tournul aussi, on t'attrape. Ça pue. Adrien.
Comment ça va, mon petit Vincent? Denis, si tu veux, je peux faire des kick-a-dis dans les mariages. Hein. Je prends pas cher, tout est possible.
Bah ouais, tu viens, tu fais une prestation, tu prends tes 1000 balles, Tom.
1000? Je suis Denis?
2000,
quand même. Question moyenne du jour, je profite de la présence de Marion, puisque je sais que Marion aime la question moyenne.
Oui,
quel
j'adore.
Est le plus probable? Dimanche, l'Italie bat le 15 de France. Dimanche, l'Italie bat le 15 de France. Ouverture du tournoi. Ou, cette saison,
qu'est-ce qui se passe?
L'Olympique de Marseille, champion de France de Ligue 1.
T'es obsédé par l'Olympique de Marseille. Il faut que ça revienne
de Ligue 1.
Dans chaque question.
Vincent, c'est quoi le plus probable? Un match, l'Italie fait exploit ou l'OM est champion?
L'OM est champion.
Pour Vincent Moscato. Denis.
Écoute, quand on voit jouer le PSG, tout est possible cette année. Donc, l'OM champion.
Hein. L'OM champion, Pierre Dorian.
Oui, l'OM, parce que je vois pas la France perdre dans les
belles. Exactement.
Ouais. Ouais. Un match,
on a la meilleure équipe du monde, je vous rappelle quand même. Hein. C'est pas une équipe de France comme ça. On a
l'Italie
la meilleure équipe du monde.
L'Italie a battu l'Australie il y a quelques semaines.
Il y a 2 mois. Et
bravo.
Il a failli nous battre au Stade de France.
Alors, Marion, est-ce que tu vas être superstitieuse ou est-ce que tu vas dire ce que tu penses réellement?
Mais non, mais bien sûr, l'OM champion, c'est impossible que la France perde sur l'Italie, t'es malade ou quoi?
L'OM champion, pour l'instant, l'OM est à 5 points du Paris Saint-Germain.
Elle va la porter, tu vas voir. Ouais. Le chat noir va la porter, c'est sûr. Après le Grette, c'est. Là, voilà, c'est ça.
Ah, ça y est, ça revient.
Elle va enterrer le pauvre Le Grette, elle va enterrer Marseille, voilà.
Vous répondez l'OM.
Et c'est surtout enterré tout seul.
L'OM champion, fait, à 66%.
Il est juste tendu le micro et puis après, il s'est débrouillé tout seul.
Le programme, le PSG est-il en dessous de tout? On va vous raconter. L'incroyable dénouement de ce mercato, ça s'est fini aujourd'hui, c'est au-delà de la date limite. À 16h, Vincent, débat très intéressant. Messi, Neymar, Mbappé, il y a 2 écoles.
Ouais.
Vincent règle le problème sur RMC. Et puis à 17h, transfert record pour l'Olympique de Marseille. Longoria joue-t-il gros sur Vitinha? Vous appelez le 32-16 pour participer à tous ces débats avec nous. Apostruf, Adrien, 15h45.
La culture pour les truffes. Vous adorez ça, on a un producteur de cinéma, un acteur.
Tout à fait.
Les premiers chiffres d'Astérix. Ouais. Soi-disant, le succès annoncé de 2023. Et puis des infos sur le cachet et les revenus de Guillaume Canet.
C'est
un prévisionnel.
Les critiques, il est très bon.
Ça, il adore. Là, prévisionnel
on aime l'oseille des autres. On aime en parler.
Rendez-vous 15h45.
Allez, le Kikadi, bien entendu, pour gagner une semaine de vacances VVF pour 4 personnes en pension complète, 2 adultes et 2 enfants. Vous choisirez parmi 100 destinations de vacances. Et pour vous inscrire, Kikadi par SMS au 732-16. Mais tout de suite, le cirque continue.
RMC, le Super Moscato Show.
Cette année, pas moins de 60 artistes des pays de l'Est, le dernier des grands cirques français.
Là, c'est le cirque Pender, c'est gros. Ils sont nuls, le PSG.
Autrefois, ces jongleurs, acrobates, clowns et musiciens étaient fonctionnaires.
Nos prestations ne sont pas au niveau de ce qu'elles ont pu être lors de la première partie de saison.
Dans l'ancien système communiste, les artistes de cirque vivaient plutôt bien et faisaient souvent figure de privilégiés.
Ça va faire 4 ans et demi, 5 ans que je travaille avec Louis. Je pense qu'il m'a transformé aussi dans mon métier.
Aujourd'hui, tous les artistes sont à égalité, l'embauche est libre, seuls les meilleurs numéros survivront.
On n'a pas l'équilibre parfait.
On le disait en France, moribond, il a encore de beaux jours devant lui.
C'est beaucoup pour vous aussi, RMC. Vous êtes là avec nous.
Breaking news.
C'est gentil de faire ça pour nous, Nasser.
Il n'y a pas de quoi, Nasser.
Alors, c'est vrai que nous, on s'en régale. Mais bon, est-ce que c'est réjouissant pour autant? On se croirait revenu aux plus belles heures de Colony Capital. Le PSG a fait un festival sur ce mercato d'hiver. Il n'y en a pas eu une dedans. Donc, avec pour épilogue le fiasco Hakim Ziyech, dont le prêt n'a pas été homologué. Le PSG est-il en dessous de tout? 32-16 et Twitter, hashtag RMC Live. Donc, l'incroyable dossier Ziyech. On va vous raconter la fin avec Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Messieurs, dames, Arthur.
Donc, dans un premier temps, pour son élément offensif, Paris a tenté Malcolm et Cherki, deux pistes qui ont avorté. Et puis, les Parisiens pensaient avoir obtenu le prêt de Ziyech. Il était même à Paris et avait passé sa visite médicale hier.
Oui, des tests médicaux, alors qu'Hakim Ziyech reste dans l'attente d'un accord entre son club et Paris. Pendant ses examens, une attention particulière est accordée à un de ses genoux, mais ce léger doute est vite levé. Les discussions entre le PSG et Chelsea s'intensifient, mais le club anglais se montre gourmand dans ses exigences financières, au point que la star marocaine négocie elle-même pour qu'elle soit libérée de son contrat. Elle contribue personnellement aux finances et se fâche avec son agent, le tout au siège social du club parisien. Les différentes parties tombent finalement d'accord sur un prêt jusqu'à la fin de la saison. Problème, à trois reprises, les Anglais envoient des documents non signés dans les bureaux du PSG. Le temps est compté. Les documents administratifs doivent être envoyés, on le rappelle, avant 23h à la Ligue de football professionnel. Ce téléchargement est fait 4 minutes trop tard, conséquence, Ziyech ne signe pas son contrat. Décision est prise par le Paris Saint-Germain de porter un recours auprès de la LFP. L'instance se réunissait donc ce matin à 10h30. Décision, appel rejeté pour le contrat de l'attaquant. Retour à Londres pour un Hakim Ziyech qui n'est pas prêt d'oublier cette journée rocambolesque.
Eh ben, merci Arthur. Dossier réglé, on est d'accord. Il n'y aura plus de rebondissement sur ce dossier Ziyech. la question, Vincent, le PSG est-il en dessous de tout?
Oh, là, c'est les Martin Circus, là. Non, mais là, c'est quand même...
C'est la 7ème compagnie.
C'est la 7ème compagnie, c'est ça. Il y a Robert Lamoureux, tout ça, Pierre Mondi, Tassin. Écoute-moi, c'est incroyable. Parfois, t'es surpris. Ces grands clubs, on serait surpris de l'organisation de ces grands clubs. En vérité, t'as un mec ou deux, t'as le grand patron, t'as Campos, et puis t'as l'entraîneur. Puis après, le reste, c'est le désert de Gobi avec des mecs qui sont dans les bureaux, qui partent dans tous les sens. Ils n'arrivent pas à régler une autre d'intention, c'est-à-dire d'une mutation. C'est des trucs qui vont très vite, surtout maintenant avec les courriers électroniques, ça va très très vite avec le Google, comme on dit, tout ça.
Ça va,
t'as plus aucune raison, comme à l'époque, tu me l'avais dit, Pierrot, avec le fax qui avait roulé, la feuille de fax qui avait roulé sous le bureau, le mec, ça n'était pas aperçu, c'était genre.
Il avait joué suspendu finalement.
À l'époque, de Colony Capital, qui était aussi.
C'était un canal plus.
Qui était bon, alors à la limite, ça peut arriver, mais là, j'ai l'impression que ça vogue à volo, quoi. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est un coup de temps en temps, avoir les trois. Mais c'est vraiment la honte, parce que c'est quand même le truc, un des clubs, tu te dis, le plus professionnel qui est en France, au moins dans les 5 premiers au monde, c'est le schisme, quoi. C'est n'importe quoi.
Responsabilité de Chelsea aussi pour toi, ils les ont fait marner.
C'est sûr qu'ils l'ont fait exprès, mais
tu finis tout ça avant.
Tout ça
est anticipé, tout est réglé 2-3 jours avant, puis c'est réglé. Je pense que c'est de l'amateurisme pur et dur, tout simplement. C'est qu'on a l'impression qu'on a des sphères très techniques, des sphères avec des mecs très compétents, les Campos, c'est marchand de tapis, tout ça, c'est je t'achète, machin, mais après, dans la précision, ça y est pas, dans la précision.
Denis.
Écoute, le problème, c'est que je sais pas si on a besoin de Ziyech, donc c'est pas très grave.
Oui, c'est pas grave.
On touche le rythme, mais on sait très bien depuis 5-6 ans qu'il nous manque des milieux de terrain. Quand je dis milieux de terrain, c'est pas des bons milieux de terrain, c'est des top joueurs. Et que t'avais à l'époque avec Matuidi, Rabiot et surtout Thiago Motta. T'as pas remplacé, donc on se demande dans ce club à quoi sert directeur sportif, c'est-à-dire quelle réflexion il a, c'est un truc, c'est un mystère pour moi, parce que tout le monde dit la même chose.
Lui, c'était censé être le meilleur du monde, quand même.
Le meilleur du monde. Et le constat, il est le même. Et puis même Christophe Galtier, que j'aime beaucoup, mais même lui, il devrait avoir son mot à dire, parce qu'à Lille, quand même, souviens-toi, à Lille, il y avait un très bon milieu de terrain. Je veux dire, Lille, quand ils sont champions, le milieu de terrain, c'est ce qui tient la baraque, avec devant, comment il s'appelait, l'attaquant, le Turc.
Ilmaz.
Maz.
Mais aujourd'hui, le constat il est dramatique. Oui. Quand on voit le milieu de terrain du PSG, c'est-à-dire qu'on a un milieu de terrain d'équipes de milieu de tableau. De la première division. C'est pas faire injure de le dire. Quand tu vois jouer Ruiz ou même Vitinha, c'est pas des top joueurs. Et ça, c'est dramatique de pas au mercato d'hiver d'avoir recruté un très bon. Donc ça veut dire qu'on n'y arrive pas.
Marion. C'est pas le PSG qui rend les gens mauvais quand même. Parce que Campos, on n'est pas,
il y a deux, c'est
plus.
Sûr.
Mais je pense
mais après,
que c'est
un cercle.
Il y a plusieurs problèmes, je finis
juste Vincent, il a pas tort. Quand tu vois Renato Sanchez, le niveau qu'il a aujourd'hui, alors le niveau qu'il avait à Lille.
Oh, il n'a pas brillé à Lille non plus. Il n'a pas
de très bon joueur. Non, je suis pas d'accord avec toi.
Il était souvent blessé et tout, hein, Denis.
Il arrive au PSG, c'est un milieu, mais il est catastrophique.
Celui qui a le plus collé, quasi, c'est Soler.
Ouais. Oui,
Soler, l'année dernière à Valence, c'était monstrueux, mais un triplé contre le Real, cette année, il est transparent.
Donc il y a peut-être un problème quand tu viens au PSG, c'est ce que dit Vincent.
Le problème, c'est quand tu es du numéro 13 au numéro 18-20, quoi. Quand t'es pas dans l'11 de base, les joueurs perdent la motivation, ils jouent plus assez, ils perdent le rythme, et du coup, ils arrivent plus tout à jouer. Moi, après, le truc, c'est que je suis complètement d'accord avec Denis, en fait. Ils voulaient faire Ziyech, mais ils en ont pas vraiment besoin. Non. De toute façon, Ziyech vient en doublure, donc il sait très bien qu'il va pas être dans le 11 de base, il sait très bien qu'il va pas être sur les gros matchs. Après, pourquoi lui décide de faire un choix de carrière, de quitter Chelsea, de venir au PSG?
De toute façon,
il joue pas beaucoup. Mais après, je pense que Chelsea voulait pas s'en débarrasser. Et donc du coup ils ont fait exprès d'envoyer les papiers pas signés parce que mais c'est criant. Et par email aujourd'hui t'envoies un email, c'est instantané, t'envoies les papiers signés, c'est instantané. Après ils font exprès de jouer sur le dernier jour du mercato parce qu'ils veulent essayer d'obtenir les meilleures affaires sur le plan financier. On l'a vu avec l'OM, ils ont fait une super affaire justement sur le dernier jour sur le transfert à 10 millions pour Unahi, mais pour le PSG, en fait, ils ont raté tous leurs transferts, mais c'est pas des joueurs dont ils ont vraiment besoin. Donc moi, j'ai du mal à comprendre, en fait, leur stratégie. Non, mais la stratégie, j'arrive pas à comprendre la stratégie. Pourquoi tu veux t'acharner sur un dernier joueur dont tu sais très bien
qu'il
va pas jouer? Mais oui, mais il va pas jouer dans ton effectif de base parce qu'effectivement, tu joues sur plusieurs tableaux. Ouais, mais tu joues sur plusieurs tableaux, t'as déjà assez dans ton effectif actuel pour jouer sur plusieurs tableaux. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font, en fait. Donc en plus, ils se ridiculisent parce que Chelsea le fait exprès, bien évidemment, pour les ridiculiser. Donc en plus c'est eux qui sont les dindons de la farce parce que bien évidemment on a l'impression que c'est à cause d'eux que le transfert a capoté, tu vois.
Aucun respect pour le joueur de foot.
Mais bien sûr, mais bon ça c'est entre les clubs, tu sais. Oui mais c'est entre les clubs. Après les clubs ils sont pas de cadeaux. Enfin le joueur au milieu c'est des dommages collatéraux.
Il y a une question à se poser quand même sur l'organisation du Paris Saint-Germain. Je veux dire, Luis Campos, au moment où il doit mettre la priorité sur Ziyech parce qu'il y a un problème, tu mets la pression, tu appelles Chelsea, t'envoies un émissaire, je sais pas. Au même moment, il est conseiller sportif de Celta Vigo, il est en train de régler un transfert pour le Celta Vigo. Arthur, tu
David Seferovic, exactement.
Donc, en provenance de... je veux dire, t'es directeur sportif, peut-être d'un des clubs les plus puissants du monde. Il y a un problème sur un transfert. T'es en train de gérer aussi en même temps un transfert pour un autre club.
Si tu veux, que le PSG arrive à carburer là sur la fin de la saison, faut absolument arriver à remotiver Neymar et Messi. Si t'arrives pas à remotiver Neymar et Messi, tu peux faire tous les transferts que tu veux au mercato d'hiver, qui est un mercato un peu bancal.
Il y a un problème d'organisation quand même, flagrant.
Oui, il y a un problème d'organisation. Mais si Neymar et Messi, de toute façon, jouent pas ou qu'ils veulent plus jouer ou qu'ils sont plus motivés, t'arriveras pas à les gagner. Tu veux gagner, il est là le problème.
Il y a pas que ça, il y a Marion. Je pense que le problème, il y a un vrai problème Verratti, c'est-à-dire Verratti. Entre les suspensions et les blessures.
Il prend un carton rouge au bout de la saison.
Il y a des problèmes partout.
C'est l'homme de base de ce club. C'est-à-dire, s'il est là, ça change le club, ça change l'équipe même. Sauf qu'il n'est jamais là.
Kimpembe en défense, parce que Ramos, il est en train de prendre
l'eau aussi. C'est pas un truc où ça va bien, parce que même le stade, ça allait pas. Il voulait le racheter. Verratti, maintenant, c'est ça.
Il a signé.
Il y a toutes les histoires. Les mutations, il y a encore une histoire. Le mercato, t'as une histoire. Il y a tout le temps une histoire. C'est quand même quelque chose.
Il y avait une histoire sous Colonie Capitale et sous Canal aussi.
Mais là, c'est de grosses histoires. Oui, mais bon, c'est peut-être le truc.
C'est l'identité de ce club.
L'identité de ce club, c'est de faire des histoires. Alors qu'à Marseille, ça se passe toujours bien. Il n'y a jamais de problème. C'est la vie d'un fauve qui est tranquille. Les mecs, ils sont là. Ils sont main dans la main. Il n'y en a jamais un qui critique l'autre. Ils sont tous.
Le PSG est-il en dessous de tout? Nous allons donner la parole à Antonin, supporter parisien. Salut Antonin.
Antonin, c'est pour le malin. Comment ça va, Antonin?
Moi ça va très bien, sauf que là je suis en train de bondir dans ma voiture quand je vous écoute.
Ah ouais, c'est vrai, dis-nous pourquoi.
Là, j'ai envie de débarquer dans le studio, là ça va pas.
Ah mais vas-y.
Ça veut dire que le PSG est super bien organisé, qu'il n'y a pas de problème.
Ça veut dire que vous faites la moindre petite histoire, la moindre petite étincelle, vous l'utilisez en fait pour tout simplement en fait parler sur le Paris Saint-Germain à chaque coup.
Ah oui.
Il peut y avoir des soucis au niveau de l'organisation du Paris Saint-Germain, et ça surtout depuis que les Qataris l'ont repris. Ça, c'est un fait. Maintenant, faut pas non plus tout mélanger. L'histoire qui s'est produite hier, on sait tous que très bien que c'est Chelsea qui est à la base de tout. Le Paris Saint-Germain n'est responsable en rien de tout.
Laisse-le parler, Denis.
On peut pas dire que le Paris Saint-Germain est responsable du capotage du transfert. Alors, on va me sortir comme argument, oui, mais il faut s'y prendre à l'avance et compagnie. Mais même Chelsea, ils ont fait un deal à la toute dernière minute avec Benfica. Ça s'est bien passé pour autant.
Ils ont réussi.
Il a réussi.
Exactement. Et pourquoi eux, ils n'ont pas réussi? Parce que Benfica, ils ont envoyé les documents quand il le fallait. Tandis que Chelsea, ils ne l'ont pas fait. On ne peut pas reprocher au Paris Saint-Germain.
C'est comme là,
vous êtes en train de dire, il y a toujours un problème au Paris Saint-Germain. Et pourquoi il y a toujours un problème au Paris Saint-Germain? Parce qu'à chaque coup, tous les médias, quels qu'ils sont, ils aiment bien les problèmes au Paris Saint-Germain, parce que c'est croustillant, ça fait.
C'est vrai qu'on a
fait. Donc de perdre contre Lens, de faire match nul contre Reims, c'est pas des problèmes.
Excuse-moi, sois objectif. Le PSG, il y a quand même des failles dans le collectif qui nous fait dire que ce PSG-là est en danger aujourd'hui.
Est-ce que t'as l'impression que le mercato.
Dans le collectif. Oui, mais là, vous mélangez tout. Dans le collectif, moi, je suis le premier à dire. Moi, écoutez, je suis un supporter qui est supporter du Paris Saint-Germain depuis les années 94-95.
On s'en était douté.
J'ai connu le PSG avant le Qatar, c'était autre chose. Et maintenant, je le connais maintenant avec le caviar et tout ça.
C'était aussi autre chose. N'importe quoi, Nidial, ils n'ont pas le passé. Hein.
Attention, le Paris Saint-Germain, il y a toujours eu des périodes bizarres, des fois des imbroglios, comme par exemple l'histoire de Fournier à l'époque d'un retour contre le Steaua Bucarest, enfin au match aller, bref.
C'était beau ça.
C'est pas là la question. Il y a des failles là actuellement dans l'équipe. Le problème de l'équipe en ce moment, c'est un manque d'équilibre.
Est-ce que tu as l'impression que le mercato est réussi là? Est-ce que le club a bien travaillé sur ce mercato, oui ou non, Antonin?
Mais le problème, c'est que est-ce qu'ils avaient réellement besoin de joueurs?
Pourquoi tu veux te renforcer avec un joueur si tu n'en as pas besoin?
Je te donne un exemple limpide, Antonin. Tu as deux clubs qui vont s'affronter dans 15 jours, là, le PSG et le Bayern. PSG, on va pas refaire le cirque, mais donc t'as échoué sur des pistes de joueurs mineurs, t'as échoué sur des pistes de joueurs majeurs avec un fiasco administratif sur la dernière journée.
De surcroît.
Tu fais rien. Et l'équipe n'avance pas. Le Bayern, ils avaient deux joueurs à prendre. Ils ont pris deux joueurs de stature internationale. Ça a été réglé 48 heures avant la fin du mercato. Ils ont pris Yann Sommer. Ils avaient plus de gardien.
Qui s'occupe du
Bayern. Ils ont pris Yann Sommer. Ils avaient besoin d'un latéral. Ils sont allés chercher Cancelo à City. Ça, c'est un club qui fonctionne normalement et qui s'est renforcé au mercato. C'est tout.
Est-ce que tu peux me dire, ils ont mis combien de temps pour chercher leur gardien?
Le résultat, c'est qu'ils l'ont trouvé. Le résultat, c'est qu'ils l'ont trouvé.
Ils l'ont trouvé pour combien de temps? Là, ils avaient besoin
d'un gardien. Mais c'est un vrai travail.
C'est exactement ce que j'ai dit dans mon argumentaire.
Je peux me permettre.
Oui.
À Paris, le vrai problème de Paris, c'est que là, on joue trop à la baballe. Des fois, on a l'impression de jouer au hand. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un attaquant.
Mais Messi et Neymar,
ils sont pas au niveau depuis le retour de la Coupe du Monde.
Donc tout va bien.
Tu vas jouer sur le banc.
Mais c'est impossible à sortir du 11 de base. Moi, le choix pour moi, c'est que tout simplement, on peut pas jouer avec trois joueurs comme ça. Il y a un trop grand déséquilibre. À la place, faut mettre une organisation de jeu qui permet d'avoir un attaquant en profondeur, qui fait des appels en profondeur, et on joue en verticalité.
Mais comment tu veux sortir Messi? Il est champion du monde et Neymar, il a encore un contrat, il est invendable. Qu'est-ce que tu veux, sortir du 11 de base, arrêter de dire n'importe quoi quand même.
Antoine, je pense qu'on parle un peu trop du PSG, c'est vrai que nous on met la merde. Moi je pense qu'à 17h, est-ce que tu veux nous suivre si on fait le mercato de Troyes ou d'Angers à 17h? Est-ce qu'il est raté?
Non, mais on va dans le déni quand même, Antoine.
Non, mais en plus, c'est exactement ce qu'on a dit.
J'ai l'impression que tout va bien dans ton club, Antonin, aujourd'hui.
C'est exactement ce qu'on a dit en plus.
Moi, je vous réponds très objectivement parlant. Au niveau sportif, en ce moment, on a un problème de déséquilibre dans l'équipe et même d'intensité dans les matchs. Et au niveau extra-sportif, le club, il a des soucis par rapport à, moi, je trouve, à la gérance de ses dirigeants. Tu nous fous des grandes raisons depuis 10 minutes,
tu dis exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire on te demande sportivement si ça va bien, tu nous dis non, et sur le plan des dirigeants, tu nous dis non, donc tu dis exactement comme nous.
Alors on me signale que dans le rugby il y a eu aussi des dingueries administratives comme ça, comme il s'est passé sur Ziyech, au dépend de joueurs, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Ziyech, mais pour lui c'est quand même un manque de respect total de la part de Chelsea. Ils ont joué avec lui, on parle d'un demi demi-finaliste du mondial quand même. C'est un bon joueur.
J'ai pas l'impression qu'il peut aller ici avec une motivation.
En rugby, c'est génial. En 2016, il y a Djibril Camara qui se pète avant un rassemblement. Et là, Guinoves, c'est la fédération. C'est la fédé qui dit, Guinoves dit, on prend David Smith. David Smith, néo-Samoa, et dit, première sélection, c'est génial, on peut sélectionner. Ils le font venir au rassemblement. Il le donne l'équipement, le sac, le maillot. C'est le rêve de sa vie. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui téléphone, il dit, mais il a déjà des sélections en rugby à 7 avec la Nouvelle-Zélande. Là, tu vas rentrer chez toi, mon poulet, tu pourras jamais jouer en équipe de France.
Oh.
C'est terrible.
Erreur administrative.
Tu peux pas t'empêcher de défoncer Guinoves.
Ah non, c'est pas la faute de Guinoves.
Dès qu'il y a un truc,
c'est parce qu'on a dit à Guinoves, tu peux y aller, tu peux le prendre.
Le pauvre Guy, ça, c'est parce qu'il y a Denis Sagna. Non, le truc, une information de Denis Sagna. Bravo, Denis.
Ça, c'était au-dessus de Guinoves, parce que Guinoves, c'est le plus beau joueur. Ça va mal finir, Denis.
Je ne veux pas avoir été à la meilleure des anciens du stade toulousain. Tu défonces, tu continues à défoncer.
Arrête. Le super Moscato Show spécial Mercato continue à 17h. Transfert record pour l'OM. Longoria joue-t-il gros? Et puis le PSG, on en reparle à 16h. Messi, Neymar, Mbappé, il y a deux écoles. Vincent règle le problème, certains sont persuadés que ça va marcher. Ça, ce sera à 16h. Mais dans un instant, on a appris une nouvelle incroyable sur Novak Djokovic. Ouais. Il a gagné l'Open d'Australie dans des conditions uniques.
C'est un surhomme. On l'a trouvé, un surhomme.
Steve Austin,
Terminator.
Gérard, on m'a mis marcher sur les coups, le tête annoncé. Tu fais un compte. 15h25, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h29, le Super Moscato Show. On y revient au Mastic, on est avec Denis Charvet, Marion Bartoli, Adrien Aiguin. Mon petit Pierrot, dans demi-heure, fais-moi craquer le programme.
Ah, dans une demi-heure, on va parler ballon, Vincent.
Non.
On va parler tactique, c'est vrai. Et peut-être aussi un c'est peu vision du jeu, parce que on va faire le débat Messi, Neymar, Mbappé. Ouais. Vincent règle le problème. C'est comme ça l'intitulé du débat, parce que, en fait, nous, on ne cesse de dire que c'est pas possible de jouer avec les trois, mais certains affirme que il faut jouer avec les trois et que c'est tout à fait possible. Vincent va régler le problème.
Ah, tu peux jouer. À ce moment, il joue. Mais bon, après,
ah, mais bien joué.
Non, mais bien joué.
L'idée, c'est de jouer et de gagner. Hein. Tu écouteras, il y a des techniciens de Ligue 1 qui disent avec ces trois-là, en les gardant, tu peux beaucoup, beaucoup mieux jouer.
Fais-moi les techniciens de Ligue 1, je veux bien. Qui a dit que
oh, il va se fâcher avec un ami, va
dire. Des bons et des pas bons. Il y a les techniciens, des bons et des truffes, et il y en a un paquet. Hein. Alors, moi, dire abondance de bien ne nuit pas. Des fois, sport, abondance de bien te nuit.
Mais là, c'est Pierre Villepreux qui l'a dit.
Oui, non, bon.
Est-ce que tu penses que le technicien.
Des livres.
Est-ce que tu penses que le technicien de Ligue 1 qui a dit ça est une truffe?
Mais non, mais écoutez-moi. Il y a le technicien pauvre qui n'a pas beaucoup d'effectifs dans son équipe. Il n'a pas d'oseille, il n'a pas d'équipe. Mais sûr que quand tu vois Mbappé dire, moi je vais faire jouer tous les trois. Mais oui, bien entendu, parce que t'as Lulu.
Tu vas te faire
Lulu et Roger en attaque. Bien entendu, quand tu avais les trois, tu les ferais jouer. Mais dans une équipe équilibrée pour gagner la Champions League. Je parle à des techniciens de très haute volée.
Oui, pas les moyens de score.
Dans les Bayern, les Real Madrid. Eux, est-ce qu'ils feraient Ancelotti? Voilà.
Zidane,
Zizou, est-ce qu'il fait jouer les trois hommes?
Zizou, il a joué avec Gareth Bale, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Ouais.
Bah, peut-être si ça marche. Mais quand ça marche pas, donc trois égaux comme ça, tu ne peux pas les faire jouer. Si c'est trois mecs intelligents qui bossent les uns pour les autres, là oui, mais là ils bossent pas les uns pour les autres.
D'abord, retour sur l'Open d'Australie.
RMC,
le cri de gueule du Super Moscato Show.
Cri de gueule, deux points soulignés à la ligne. Préambule, entre parenthèses, préambule. Marion, tu prends sur toi pendant deux minutes.
Tu n'interromps pas Pierre.
Tu prends sur toi pendant deux minutes, ensuite tu pourras.
La parole est libre. C'est un exercice difficile.
La parole est libre sur RMC, donc tu pourras me répondre. Alors, on revient sur l'Open d'Australie. Novak Djokovic a marché sur l'Open d'Australie. Il a perdu 1-7. Il a défoncé tout le monde et bravo à lui. Et je suis content parce que je me suis dit, ben, ça y est, on va pouvoir enfin, naïvement, j'ai cru qu'on pourrait enfin célébrer le champion extraordinaire qu'il est. Oui. Puis j'ai déchanté ce matin parce que le cinéma est reparti de plus belle. Alors le PSG, c'est le cirque qui repart régulièrement. Djoko, c'est le cinéma qui repart. C'est cinéma, alors c'est un grand producteur, attention. C'est un grand producteur réalisateur parce qu'il dirige aussi d'autres acteurs. Et là, en l'occurrence, le protagoniste s'appelle Craig Tiley. C'est le directeur du tournoi à Melbourne. Il nous a fait savoir que Novak Djokovic a gagné l'Open d'Australie avec une déchirure de 3 cm à l'ischio-jambier gauche. Écoutez Craig Tiley.
La plupart des problèmes qui entourent Novak sont dus à sa mauvaise réputation. Mais en fin de compte, je pense que personne ne peut remettre en question ses qualités athlétiques. J'ai vu que ce type avait une déchirure de 3 cm à l'ischio jambier. Il y a eu beaucoup de spéculations pour savoir si c'était vrai ou non. Et c'est difficile de croire qu'il peut faire ce qu'il fait avec ce genre de blessure. Mais il est remarquable. Il est tellement concentré sur tout ce qu'il fait à chaque minute de la journée. Il fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, quand il le fait, comment il le fait. Il n'y a aucune défaillance ou défaillance mentale chez lui. Il a traversé beaucoup d'épreuves et gagné 10 Open d'Australie. Je ne pense pas que cela puisse se répéter. Il occupera toujours une place importante dans l'histoire de l'Open.
Alors, je voulais remercier Craig Taillet parce que la prochaine fois que j'aurai un bobo musculaire, je me concentrerai très fort. Je mangerai des yaourts et de la quinoa et puis ça va cicatriser.
Oui, pour rejouer le samedi.
Je ne savais pas qu'on se concentrant, on pouvait soigner les blessures musculaires. Je croyais que déchirure musculaire, c'était un protocole simple, repos, soin, réduction.
Oui, mais pas de
soin. Ça, c'est pour les mauviettes comme toi. Ça.
Bandage.
Ah, Marion, 2 minutes.
Ouais. Bandage, concentration.
Ah, bah, 2 minutes, c'est passé là.
Match de 2h30. Entraînement, match de 2h. Entraînement, match de 2h30. Et ça disparaît.
Qui t'a dit qu'il s'est entraîné? Qui t'a dit qu'il s'est entraîné les jours?
En tout cas, il a joué.
Oui, il a joué ses matchs, mais il s'est pas entraîné les jours.
Pour être sérieux, 2 minutes. Déchirure de 3 cm, tu fais pas de sport. Donc, moi, c'est ce storytelling qui m'insupporte. Je sais pourquoi. Si, il en a besoin. Il y tire probablement une force incroyable qui lui permet de gagner, mais moi, ça ne me le rend pas sympathique. Point barre, c'est tout. Je n'y peux rien.
Un petit Pierrot. Moi,
oui. Donc, je peux y aller.
Vas-y, Marion.
Alors, Pierrot, pour commencer. Donc déjà, ça fait 18 ans que je connais Craig Taillet, puisqu'il était déjà directeur du tournoi quand je jouais le tournoi, même quand j'ai joué les juniors. Donc il n'a aucun intérêt à mentir. C'est quelqu'un qui est complètement impartial dans la décision. Simplement, dans le protocole, quand un joueur est blessé, surtout d'un joueur de l'envergure de Djokovic, on sait très bien que la programmation va être faite autour de lui, que les droits télé, que les télévisions vont demander ses matchs à un certain horaire, le directeur du tournoi doit être obligatoirement informé exactement de la gravité de sa blessure pour savoir s'il va être en capacité de pouvoir jouer un match, deux matchs, de pouvoir jouer tout le tournoi, etc. Donc, ils sont obligés de faire des examens à l'intérieur de l'Open d'Australie, avec les médecins de l'Open d'Australie, et donc le directeur du tournoi effectivement accès aux résultats, comme c'est le cas pour tous ces gros joueurs, et même à partir du moment où tu es dans le tableau final de l'Open d'Australie, mais encore plus pour quelqu'un qui a autant d'importance. Donc, on lui a montré les résultats. Donc, là-dessus, à partir du moment où on lui montre les résultats, effectivement, on lui dit qu'il a une déchirure de 3 cm, le directeur du tournoi pose la question à Djokovic, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on programme en ice session? Mais du coup, il y a la possibilité que malheureusement, tu dois abandonner. Et donc, nous, on a vendu des tickets, on t'a mis en programmation night, mais le match va durer malheureusement que 30, 45 minutes ou une heure. Ou est-ce que tu penses pouvoir jouer? Le muscle ischio-jambier, c'est un muscle qui est pas vraiment indispensable sur un match de tennis, parce que c'est un muscle qui permet de fléchir le genou sur un appui. Donc lui, c'est sur sa jambe gauche. Donc côté revers, en appui ouvert, il va pouvoir contrôler ses degrés de flexion, fléchir un tout petit peu moins que d'habitude. Et normalement, la cicatrisation pour une déchirure musculaire, c'est 1 cm par semaine. Donc 1 cm par semaine, comme il a fait beaucoup plus de rééducation, beaucoup plus de machines avec des courants électrostimulateurs pour avoir une cicatrisation plus rapide. On a vu très bien que sur la première semaine, il était à 50-60% maximum de son niveau réel. Il s'est fait ça à Adélaïde. Il y a une semaine d'écart entre Adélaïde et le premier tour de l'Open d'Australie. Donc c'est déjà une semaine. T'as la deuxième semaine de l'Open d'Australie. Sur la fin, la troisième semaine, quand il doit être au pic de sa forme, il arrive sur la fin de sa déchirure. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effectivement, sur la première semaine, attends, laisse-moi terminer. Sur la première semaine, il s'est pas entraîné du tout. D'accord, il a dû faire 1 ou 2 entraînements maximum, il a géré que les soins. Sur la première semaine de l'Open d'Australie, il a complètement géré ses efforts en allant pas sur toutes les balles, c'est le moins qu'on puisse dire, en essayant d'être beaucoup plus agressif, et il a d'ailleurs frappé son coup droit comme jamais il a frappé pendant les 15 jours de l'Open d'Australie, en se rendant beaucoup plus fort, en écourtant les échanges et en se lançant pas dans des grands échanges très longs, il va solliciter beaucoup plus ses muscles. Et sur la fin du tournoi, quand il va en avoir plus besoin, il est sur la fin de sa cicatrisation. Et comme en plus il tournait à 7 protocoles de rééducation par jour sur ses jours off, on peut comprendre qu'il peut récupérer un peu plus vite. Donc il y a finalement la logique, elle est implacable. Ouais. La seule différence, c'est que bien évidemment, comme il a une résistance à la douleur qui est certainement beaucoup plus importante que les autres, je vous rappelle quand même ce qui s'est passé pour Zinedine Zidane en 2006. et c'est une blessure extrêmement grave à la cuisse sur son match avant le Brésil. Tous les médecins lui disent, il est hors de question que tu joues, c'est impossible, tu ne veux pas jouer contre le Brésil. Il se baisse en huitième contre l'Espagne. Il dit, ça peut être un de mes derniers matchs en équipe de France, je vais jouer quoi qu'il arrive, c'est le Brésil. Il fait un de ses meilleurs matchs à carrière et fait la passe D pour battre le Brésil. Donc ces joueurs-là, tu ne peux pas les mettre au même niveau qu'un quelqu'un qui va se faire effectivement une déchirure musculaire et comme un, on va dire, un sportif même élevé, mais d'un normal. Tu es obligé de les mettre dans une catégorie supérieure. Et si d'autres sportifs l'ont fait et que ça ne nous choque pas, pourquoi ça nous choquerait sur Djokovic?
Alors, je vais te dire, moi, ce qui me choque, c'est pas la guérison. À supposer que tout ce que tu dis est vrai, c'est sur la guérison. Non, mais dans ce cas-là, si tout ce que tu dis est vrai, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, la phrase de Craig Tiley est un mensonge. Oui, oui. Et c'est ça qui m'agace. C'est le storytelling. Ben, si, là, tu viens de nous dire qu'il n'a pas joué la quinzaine avec une déchirure de 3 cm. Si. Tu viens de nous dire qu'il était en fin de cicatrisation. Et en fin de compte, il a démarré en fin de blessure.
Bien sûr.
Moi, je ne parle que du storytelling. Je ne parle que du storytelling. C'est cette espèce de truc où il faut qu'il se plaigne à chaque fois qu'il passe pour le super-héros.
Mais il n'a pas passé une IRM tous les jours. Donc, non, il a commencé l'Open d'Australie avec une déchirure.
Ce que veut dire Pierrot, c'est que c'est du mensonge et que
c'est du storytelling. C'est pas du mensonge, mais où il a menti.
Mais moi, toi, quand tu expliques la guérison, ça équivaut à dire il n'a pas joué avec une déchirure de 3 cm.
Il a commencé l'Open d'Australie, il avait une déchirure, mais simplement ça s'est cicatrisé.
Tu dis 1 cm par semaine. Tu dis 1 cm par semaine, il a commencé la semaine d'avant à cicatriser.
Et alors, Pierrot,
il dit qu'il
a une blessure.
Mais donc, il avait rien.
Mais non, donc, mais bien sûr que non, il n'avait pas rien. Il a commencé la première semaine d'Open d'Australie, t'as 50% grand max.
Ce que vous ne pouvez pas comprendre, c'est qu'avec une déchirure, tu ne fais pas de sport de haut niveau. Donc après, ce que dit Marion est probablement vrai, puisque sinon, il n'aurait pas pu jouer. Moi, ce qui m'agace, c'est cette espèce de storytelling où on en fait un surhomme, un super-héros, il est comme les autres.
Mais c'est un surhomme, tu ne peux pas dire contraire.
Mais Marion, s'il avait 3 cm de déchirure, il ne pourrait pas jouer, c'est impossible. Donc,
je t'explique quand est-ce que c'est arrivé. Il y a une logique dans le lancer le conducteur.
C'est qu'en fait, il a joué l'Open, pas blessé.
Ici, il était sur sa fin de blessure, c'est pour ça que la première semaine, il a joué archibandé.
C'est ce que veut dire Pierrot. C'est-à-dire qu'après, tu n'acceptes pas le fait que l'autre, comment il s'appelle,
il
est à 12 ans, il est tombé d'un pont de 15 mètres de haut, il n'a jamais parlé. De 15 mètres de haut, il n'a jamais parlé. Donc, il peut parler d'une petite déchirure. Et le mec dit, il avait une déchirure de 3 mètres.
Après, toi, tu vois,
elle s'est résorbée. Il dit, je ne comprends pas qu'on parle là-dessus. Il dit qu'il avait une déchirure de 3
mètres. Moi, je te dis,
c'est la vérité.
Mais c'est vrai.
Mais c'est la vérité. Mais
c'est
du storytelling. Tu veux quoi qu'il te fasse un bilan médical tous les jours pour que ça fasse plaisir?
Il a fait, regarde, ah non, je ne sais plus qu'un centimètre, 2 mm. Ah, là, je ne sais plus que 8 mm.
Mais voilà, exactement. Mais t'as raison, Vincent.
Vous allez à côté comme si je parlais d'autre chose.
Pierrot, répète ce que tu leur dis.
Mais je sais ce qu'il dit. C'est-à-dire tout le fond où il a fait le truc. C'est-à-dire, c'est
on la raconte l'histoire. Voilà, regarde. C'est, on raconte l'histoire. L'histoire racontée est il a gagné l'Open d'Australie avec une déchirure de 3 cm. Eh bien, cette phrase est fausse en tant que telle. Et cette histoire, cette dramatisation de la victoire de Djokovic est complètement ridicule car elle ne correspond pas à la réalité. Car si tu as une déchirure de 3 cm, tu déclares forfait. Tu rentres
à partir du moment où tu commences un tournoi avec une blessure de 3 cm.
Et ben après, tu racontes une histoire.
Et ben
il a commencé
son tournoi avec une blessure de 3 cm.
Mais tu as raison. Et ben moi, je pense que la vérité, c'est qu'il a commencé le tournoi avec une blessure et s'est soigné pendant le tournoi.
Exactement. Merci, Vincent.
Et de raconter une histoire pendant le tournoi sur le champion du moment, je trouve que ça met en valeur le tennis et le courage.
Il faut que l'histoire soit sincère et qu'elle corresponde à quelque chose, sinon c'est fake, c'est naze.
Mais la seule chose qu'on te dit, c'est que n'importe quel joueur avant l'Open d'Australie, il aurait fait forfait, c'est tout.
Alors, moi, je vais te dire un autre truc. Le gars commence à dire, il y a 6 mois, il s'était cassé le poignet, vous vous rendez compte, 6 mois après, il est au tournoi. Là, on aurait dit, c'est du cinéma, ça c'est, on raconte un truc qui est pas. Là, il a... Non mais Pierrot, quand même. Là, il attaque le tournoi avec une déchirure.
Tu as bien vu
que
sa déchirure l'a absolument pas handicapé.
Mais tu le sais pas.
Exactement. Merci.
Plein de mecs qui ont joué blessés et qui ont eu des déchirures et qui ont déjà joué. Et tu le sais très bien, Mimi aussi. Voilà. Parce que ça dépend de la déchirure.
Après, vous allez m'expliquer pourquoi Djoko il a 7 protocoles et que les autres ils sont sont bien cons de ne pas faire les 7 protocoles alors.
Parce que c'est
pas les choses. Mais c'est pour ça certainement qu'il a pu jouer.
Il est numéro 1 avec
77 machines. Moi, je voudrais les connaître les 77, hein, parce que la prochaine fois, je vais faire 77 machines et ma lésion va se résorber plus vite.
Non, mais non, c'est pas ça. C'est qu'il faut les faire les 77.
Oui, il faut les faire. C'est dur à les faire. Oh là là, quel courage, quoi.
Non, mais Pierrot, je ne peux pas te laisser dire un truc pareil. Je suis désolé.
Vous ne me convaincrez jamais qu'on fait un tournoi du Grand Chelem à haute intensité avec 3 cm de déchirure à la cuisse pendant 15 jours.
Mais c'est normal, mais tu ne connais pas tennis professionnel, tu n'as jamais fait un match sur un court tennis, tu ne sais pas à quel point il peut gérer ses efforts, à quel point il a une marge sur certains joueurs, tu ne comprends pas ce que cette période-là. Bah écoute, tu ne veux pas comprendre. Mais le gars, tu ne peux pas ne pas respecter quelqu'un qui a gagné 22 tournois du Grand Chelem. À un moment donné, c'est bon, Pierrot.
Tu veux me foutre le nombre de mecs qui jouent en Ligue 1 avec des lésions cérébrales, des liaisons très dures cérébrales. Tu vois, ils jouent parce que c'est des champions, Pierrot.
Et ce débat résume tout Joko, Marion, si je peux me permettre. La réaction de Pierrot, il y a beaucoup de gens qui pensent comme Pierrot. Ça, c'est une réalité. Joko énerve beaucoup de monde. Sortons de cette blessure à la cuisse ou pas.
Fou,
mais en fait, il faut que les pros de Joko, je pense, acceptent qu'il est tellement particulier par rapport à Federer qui était beaucoup plus lisse, par exemple, qu'il y aura toujours des anti-Joko et des anti-Joko qui respectent le champion.
Mais non, vous le respectez pas, c'est ça le problème.
Tout le monde est d'accord pour dire que
Mickaël. Vous le respectez pas.
Marion, dis-toi que c'est bon signe.
Capiro dit qu'ils vont rien, que c'est amateur.
Il y a des grands champions dans l'histoire du sport qui sont très clivants. Mickaël Schumacher était clivant. Il y avait des pros et des anti-Schumacher. C'était comme ça. Et même les anti-Schumacher disent que c'est un énorme champion.
Il n'y a pas d'anti-Joko, je trouve. Son storytelling
Marion,
nul.
On a le droit d'avoir un doute avec Pierrot sur le fait qu'il a joué le Grand Chelem blessé. Moi, je ne peux pas le croire.
Mais là, à un moment donné, Marion, quand même, là aussi, ça m'énerve. Et là, quand tu dis Pierrot, il se dope, je trouve ça anormal. Mais tu ne le sais pas.
Nous, on doute, mais je vois que, par exemple, l'équipe, ils ont interviewé le médecin du Racing qui a dit Joko ne peut pas avoir joué tout le tournoi avec une lésion si importante.
Apostrophe, Guillaume Canet va-t-il gagner potentiellement beaucoup de sous-sous avec Astérix? Réponse tout de suite d'Apostrophe.
15h45, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC, 15h18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h49, le Super Moscato Show. C'est le journal de la culture sur RMC.
Nouveau jingle encore dedans.
RMC.
Travail, hein. Café, ça.
C'est l'heure d'Apostrophe dans le Super Moscato Show.
Chaque fois, rien. Jamais. Toujours jamais. Every day. Chaque jour, jamais.
Donc ce nouveau jingle,
ça c'est.
Vincent, alors certes,
c'est du vandale, non?
C'est vandale.
C'est le nouveau jingle d'Apostrophe. Vincent, je te dis la vérité, j'étais pas au courant que c'était ça, ce nouveau jingle. Fred m'a dit un nouveau jingle. Je ne l'ai pas commandé. Non, c'est surprise parce que j'aime bien le découvrir en direct. C'est Frédéric Pouillet, notre producteur Apostrophe.
Merci Fred.
La culture pour les truffes, parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. On débute avec la culture dans l'after.
Le Big Bang, c'est deux choses qui se cognent l'une contre l'autre pour que ça fasse quelque chose de la Terre.
Quoi. Merci Daniel. Régulièrement, l'after.
J'ai vu mais des mecs qui se cognaient l'un contre l'autre, ça n'a jamais fait la Terre.
Hein, l'after décide, ça fait plutôt la Lune. L'after décide de nous offrir quelques références culturelles régulièrement. C'est toujours très bon. Fred Hermel nous a encore une fois éblouis. Ils évoquent dans l'émission MC Solar, que tu aimes bien, Vincent.
Poète
MC Solar. Et Fred décide de chanter du MC Solar, Caroline, magnifique chanson.
Bon, magnifique.
Alors Caroline version Fred Hermel, c'est pas bon, c'est très bon. En plus, il se prend pas au sérieux, Fred. Non. Écoute bien.
Non, mais c'est de la poésie, MC Solar. C'est différent, on est d'accord.
Ah, allez, non plus.
C'est pas un
rap lourd, quoi. Que l'âge de pique et trèfle mon cœur.
Un Julien de Gynéco, il l'a adoré aussi.
Deux fois, Fred Hermel.
L'âge de pique qui trèfle mon cœur.
Qui veut faire le malin. Ça mérite une réécoute parce que quand il le dit une deuxième fois, il se prend vraiment au sérieux. Écoute.
Non, mais c'est de la poésie, MC Solar. C'est différent, on est d'accord.
Ah, allez, non plus.
C'est pas un rap lourd.
Que l'âge de pique et trèfle mon cœur.
À l'époque, moi, j'ai grandi avec de Gynéco quand même.
Que l'âge de pique et trèfle mon cœur.
Un Julien de Gynéco, j'ai adoré aussi.
C'est sérieux.
C'est très bon, quoi.
Ça, c'est une chanson préférée de Vincent.
De pique et qui fait ton cœur.
C'est bon, Julien.
Caroline.
Oh, toi aussi, tu prends au sérieux. Tu ressembles un peu à MC Solar.
Ouais, j'adore, très bon. J'adore.
Claude.
J'adore Claude. Ça peut faire un peu ringard, mais Claude, j'aime bien.
Il s'exprime jamais dans les médias, on le voit.
On le voit pas. Je l'ai vu à Narbonne il y a 2-3 ans. Ça, je me suis régalé. Il a fait durer pendant 10 minutes.
Ça va à Narbonne.
L'autre Narbonne. Donc, je l'avais vu là-bas, je m'étais régalé.
On va appeler ça Narbonne Beach. Transition cinéma. Ah, aujourd'hui c'est la sortie d'Astérix et Obélix, l'empire du milieu. Alors est-ce que ça va marcher? J'ai besoin de l'analyse de spécialistes. Ça tombe bien, ils sont deux, Marion, devant nous, ils sont là, oui. Les spécialistes. Jingle.
Vous renversez Gétorix comme chef. Sénateur, nous vous demandons d'élire Vercingétorix, chef des Arbères.
Bon, alors Denis et Vincent dans Vercingétorix. Ce matin, critique du Parisien aujourd'hui en France déjà. Est-ce que Guillaume Canet a passé un bon petit déjeuner? Il a pris sa douche à 7h.
Pas sûr, hein.
Le titre de la critique du Parisien qui est très, très suivi parce que c'est un journal populaire. Elle est où la potion magique? Donc le titre de la critique, c'est
ouais,
ça.
Déjà, c'est mal, ouais.
Il a recraché son café au lait. Passage le plus dur sur Guillaume Canet. Écoutez bien le passage sur Canet. Donc Obélix joué par Gilles Lelouch. Gilles Lelouch avec son insouciance naïve et rigolarde s'en sort mieux que Guillaume Canet. En 1h51, on n'oublie jamais le comédien sous le costume d'Astérix. Voilà, là il a raccroché,
il le tue, quoi.
Et là il le tue un peu, là, c'est dur parce
le flingue,
là, c'est, voilà.
Ouais, le flingue, ouais.
Passage sur l'humoriste qu'on connaît bien, Jason Chicandier, qu'on a reçu dans le Moscato Show, qui joue le poissonnier ordre alphabétique. Jolie surprise, la performance de Chicandier, une bonne gouaille à la fois franchouillarde et tendre, un numéro à la Vincent Moscato, mais en plus subtil. Incroyable.
Ah ouais, c'est dingue.
C'est
incroyable, c'est le mec que tu es.
Mais non, mais prends mon point de truc.
Non, mais non, il a cru.
J'étais là.
Ouais, non,
j'étais
là. Cru,
mais déjà, j'étais là comme ça, je me disais. Bien, j'ai fait qu'il a cru face.
Non, mais
j'ai
cru.
Ouais, ça m'énervait grave. Tu sais, je commençais à me remonter.
Non, mais tu sais quoi? J'ai cru aussi, mais je me suis dit,
c'est pas possible. Ouais, quand même,
j'ai quand même, on va pousser le dire jusque-là.
Parce qu'on peut dire que pendant deux secondes, t'es parti le garde-tour.
Ah oui, oui.
Je l'ai vu, oui.
Je te jure, il y a eu deux trucs. Un moment où
c'est. Chicandi a du talent, mais il est moins rablésien que toi.
Ibrahimovic, on l'a
pas. Le cinéma. Ah ben, il s'en sort plutôt bien, Ibrahimovic, parce qu'il parle pas beaucoup. Le cinéma, c'est aussi une histoire, vous me l'avez souvent raconté, une histoire de.
Money.
Eh oui.
Des sous-sous.
L'argent, c'est important, l'argent, ça sert à vivre.
Ah bah oui.
Donc le site L'Informé publie ce que pourrait toucher Guillaume Canet, qui est acteur et réalisateur d'Astérix.
Producteur, non?
Les cachets. Alors non, justement, il n'est pas producteur. Le cachet, pour acteur, c'est 250 000 euros.
Ouais.
Pour réalisateur, c'est 250 000 euros. Mais, après, sur chaque place vendue, je dis bien chaque place vendue,
c'est ça qu'il est producteur.
Il touchera 0,3% du prix du ticket hors taxe.
Sur 0,3%.
Sur chaque place vendue. Et ensuite, entre 1 et 3 millions d'entrées, il touchera 0,69 centimes d'euros supplémentaires par place vendue.
Ça cogne, là, ouais.
Si le film dépasse 7 millions de spectateurs ou s'il est amorti, il serait amorti selon les spécialistes à 6 millions de spectateurs. Il touchera 1 million d'euros brut. Si le film cartonne en plus à l'étranger, une autre prime prévue, elle peut aller jusqu'à 900 000 euros brut pour 5 millions de tickets vendus à l'étranger au total.
J'ai une question à poser aux spécialistes de la production cinématographique. Sur ce que nous dit Adrien, si le film est amorti, il touchera 1 million. Et le film est amorti à 6 millions, ce qui n'est pas gagné d'avance.
Non,
je ne comprends pas comment on peut faire un tel plan, un tel investissement.
C'est un pari.
En se disant.
C'est un pari.
Oui, mais alors là c'est
le
très risqué.
Le premier Astérix, il a fait 14 millions.
C'est-à-dire que peut-être éventuellement le film va être amorti et là tu vas toucher 1 million. Mais tu ne peux pas partir sur un tel projet si cher.
En te disant. Il
faut une estimation. Tu regardes les autres comme ils ont fait. Si les autres ont fait, mettons 15 millions, ça veut dire qu'un billet 15 millions, ça fait 150 millions d'euros.
Le dernier n'a pas marché, je crois, non ?
Le dernier moins bien, mais.
Oui, mais si tu te dis.
Ça fait 6 millions.
Oui, mais tu te dis, je vais faire 7, 8 millions. Ça veut sourire, même pas très bon. On peut te faire 7, 8, 9. 8, 9. Et là, tu prends tes sous, c'est un pari à faire. Alors, quand tu dis en production, il est en part production. C'est-à-dire qu'il se fait payer faiblement.
C'est l'équivalent de son producteur.
Metteur en scène et d'acteurs sont payés plus faibles, 250 000 chacun. Et s'il y a des sous qui tombent, ben là, par contre, ils peuvent se faire une très très belle
balance. C'est ce que j'avais pris sur Vincent Venturi.
Voilà. Et c'est pour ça qu'il a pu s'étouffer avec son café au lait quand il a lu la critique du Parisien ce matin.
Il y en a un autre qui disait qu'il était un peu cané.
C'est cané, comment.
Alors, il y a eu les premiers chiffres juste rapidement ce matin. Alors, ce qui est révélateur, c'est historique. C'est pas scientifique, mais c'est la séance de 9h dans un cinéma parisien au Hall. Et ça a bien marché sur 521 spectateurs et 96 dédiés à Astérix. Les spécialistes disent que c'est bien parti quand même.
C'est bien parti parce que ça va faire 5-6 millions. Seulement ce truc-là, moi, 6 millions, d'après moi, il n'est pas amorti. À moins qu'il ait vendu à d'autres chaînes.
Apparemment,
c'est parce qu'ils vendent à des chaînes européennes.
Apparemment, ça plaît beaucoup aux jeunes.
Tu sais, quand ils avaient fait Astérix aux Jeux Olympiques, ça leur avait coûté 75 millions. Il fallait qu'ils fassent 1 million d'entrées pour rentabiliser. Ils n'ont fait que 6,8.
Il y avait mon cachet à l'intérieur.
Il y avait personne qui a joué, Marie.
Dans un instant, Messi, Neymar, Mbappé, Vincent règle le problème. Un invité surprise dans ce débat, tout de suite.
15h57, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.